Tous les vendredis, le rabbin Jonas sur Koulam Radio.
Comme chaque année, en ce début d'été, nombreux sont les parents qui vont acheter pour leurs enfants ces fameux cahiers de vacances dont on sait pertinemment que peu ou prou, les enfants ne les ouvriront presque jamais. Mais qu'importe, l'année prochaine, on les achètera à nouveau pour calmer notre mauvaise conscience face à ces enfants désœuvrés et qui risquent de perdre le bénéfice d'une année d'école. Bien évidemment, quand lui est place de ses cahiers, s'asseoir avec son enfant et réviser, ou lui donner un ou deux cours particuliers serait nettement plus profitable. Ce petit conseil est insignifiant par rapport au principe fondamental d'éducation que nos sages nous révèlent dans notre paracha de Roukat. Et ce, en se fondant sur le mystère de la faute de Moshe, qui peu après la mort de Myriam, sa sœur, et la disparition de ce puits, de cette prophétesse qui avait alimenté les enfants d'Israël pendant 40 ans dans le désert. Voilà que Moshe, au lieu de parler au rocher pour faire jaillir de l'eau pour les enfants d'Israël comme Dieu lui avait demandé, voilà que Moshe a frappé ce rocher. Et malgré les incessantes suppliques de Moshe, Dieu habituellement magnanime, toujours enclin à pardonner, va refuser d'absoudre Moshe et va le condamner à mourir dans le désert pour une erreur minime à nos yeux. Et malgré toutes les tentatives de nos rishonim, sages du Moyen-Âge, pour justifier la terrible punition de Moshe comme une condamnation de sa colère, de son orgueil, de son mépris pour les enfants d'Israël, Rabbi Yitzhak Arama écrit qu'aucune de ses explications concernant la gravité de cette faute ne l'ont convaincu. Et je vous propose néanmoins de suivre le chemin tracé par le Midrash Yalkut Shimoni, éclairé par la lumière de Rav Shnor Ashkenazi, conférencier israélien actuel, pour élucider ce mystère. Et le Midrash compare le rocher que le cantonnier doit tailler afin de pouvoir l'utiliser à un enfant que le père et le maître doivent éduquer pour la vie. Et le Midrash dit, quand un enfant est petit, frappe-le pour lui enseigner, mais une fois que l'enfant a grandi et est devenu un adolescent, parle-lui. Ainsi, quand le rocher était petit, juste après l'arrivée des enfants d'Israël dans le désert, je t'ai demandé de le frapper, dit Dieu à Moshe. Mais 40 ans plus tard, quand les enfants d'Israël ont mûri, je t'ai ordonné de lui parler. Et poursuit le Midrash, en frappant le rocher, c'est comme si tu avais frappé un adolescent, ce que la Torah interdit fermement, car le risque de l'incompréhension de ses coups par l'adolescent et ses réactions peut être brutal, et qu'un parent, à partir d'un certain âge, ne doit jamais lever la main sur son enfant. Et de nos jours, les sages interdisent de frapper son enfant, quel que soit son âge, contrairement aux recommandations du passé, car aujourd'hui, nous ne sommes plus en mesure d'administrer des sanctions corporelles avec mesure et avec discernement. De ce fait, tout châtiment corporel est proscrit. Mais approfondissons ce midrash. Celui-ci distingue deux périodes de la vie d'un enfant. Dans sa plus tendre enfance, le Midrash recommande de le frapper, non pas de lui donner des coups, comme on pourrait le penser, mais baser son éducation sur la prise de bonnes habitudes, sans avoir à les justifier, les expliquer. Habituer son enfant à prier, à respecter le Shabbat, par exemple. Pourquoi ? Kacha, comme on dit en hébreu, car c'est comme ça qu'il faut se comporter, comme on habitue son enfant à se brosser les dents, se laver, même si l'enfant n'en perçoit pas forcément l'utilité. Profiter de notre ascendant de parents sur notre enfant pour lui inculquer les bons usages, les bonnes habitudes. En hébreu, le mot chinour signifie éducation, mais aussi inauguration, car sur un terrain vierge, un enfant, on va faire pousser de beaux fruits, toutes ces bonnes actions accomplies par l'enfant, toutes ces bonnes habitudes que l'on espère voir dans l'avenir, devenir sa nature profonde. Mais une fois que l'enfant est arrivé à l'âge de comprendre, non seulement la contrainte est insuffisante, mais elle est contre-productive, voire très dangereuse, face à un adolescent récalcitrant à la Torah. Non seulement les coups, mais même les cris et les hurlements contre cet adolescent peuvent provoquer un abandon définitif de la Torah et des mitzvot, devenu aux yeux de ce jeune homme synonyme de disputes, de hurlements, de scènes, au point que cet adolescent risque d'aller chercher ailleurs des paroles d'affection, d'amour, dont ses parents l'ont frustré. Et ce jeune-là, on l'aura définitivement perdu. Un véritable drame pour des parents. Et c'est le reproche que Dieu a fait à Moshe. Tu as frappé ce rocher, c'est-à-dire tu as commandé les enfants d'Israël par des diktats, comme s'ils étaient encore des petits-enfants, alors que l'heure était venue de leur expliquer, de dialoguer, de les convaincre. Dans l'éducation, il y a un temps pour le naasé, apprendre à faire, sans comprendre, la petite enfance, mais il y a aussi le temps de Nishma, nous comprendrons, celui de donner la raison de nos actions, de nos mitzvot, pour que l'adolescent puisse s'identifier avec les mitzvot, les intérioriser, se les approprier. Et c'est le sens de l'histoire racontée par le Talmud, que du temps de Rav, la sécheresse s'est abattue sur sa région, et Rav a décrété un jeûne public, sans succès. Puis, il organisa des prières, et c'est un simple enseignant qui a dirigé ces prières. Et miraculeusement, le vent s'est levé et la pluie s'est mise à tomber. Et Rav interrogea alors ce simple maître, quel était son mérite, que lui, le grand Rav, n'avait pas. Et l'enseignant répondit, « J'ai toujours veillé dans ma classe à respecter deux choses. La première, j'ai accueilli avec la même joie les enfants riches comme les plus démunis. La deuxième, lorsque je voyais qu'un enfant était agité, fatigué, perturbé, incapable de suivre, je ne le grondais jamais. Je lui demandais de sortir de la cour et d'aller jouer avec un bassin d'eau rempli de petits poissons et de revenir en classe quand il en éprouvera l'envie. » Et les sages expliquent que les pluies sont tombées selon le fameux principe de Mida, Keneged Mida, que la récompense est fonction de la bonne action. Par sa conduite, ce maître permettait à ses enfants de s'épanouir et de grandir, malgré leurs difficultés de concentration. Ainsi, la pluie qui fait pousser et grandir les plantes est tombée. Et les éducateurs modernes nous indiquent que les temps ont changé en 2022 et qu'aujourd'hui, nos enfants, même les plus jeunes, sont souvent plus intelligents que nous, grâce aux ordinateurs, aux smartphones notamment. Et qu'il faut tenir compte de cette réalité et que de la plus tendre enfance, on doit tenter, au-delà des traditionnelles sucreries, bonbons et récompenses offertes aux enfants qui apprennent la Torah afin de faire rimer les mitzvot avec plaisir, joie, kiff. Il est nécessaire de donner à nos plus jeunes aussi le goût, le sens, l'importance de ces mitzvot à travers des midrashim, des paraboles, des histoires personnelles. Et en s'appuyant sur cette dernière idée, il est possible d'élucider une autre énigme au sujet de la faute de Moshe. Pourquoi Dieu a-t-il demandé à Moshe de prendre son bâton, ce qui l'a induit en erreur, puisqu'il devait uniquement parler au rocher ? La réponse peut être, Dieu s'adresse aux parents modernes que nous sommes, même si évidemment vous disposez du bâton de la contrainte vis-à-vis de vos jeunes enfants. Parlez-leur, donnez du sens, et l'eau, la vie, le bonheur finiront par jaillir en les voyant grandir. Shabbat shalom à vous tous. Koulam.